The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré. J'essaie
d'être smooth.
Ouais, de changer un peu. C'est ma voix FM. Vu que ma voix me tape ses nerfs.
Ta voix radiophonique.
Ma voix radiophonique. By the way, j'ai reçu un message, parenthèse, d'une... j'aurais dû noter son nom. J'ai oublié son nom. Mais elle m'a écrit... Mélanie, tu devrais pas avoir honte de ta voix. Tes jokes sont vraiment bonnes. Je m'en vais exactement ce qu'elle disait. Elle était trop fine. J'ai oublié son nom. J'essaie de le retrouver.
Mais oui, on l'aime, ta voix.
Merci.
Juste toi qui l'aime pas.
Ben, je sais. Non, il y a quelqu'un sur Apple Podcast qui m'a appelé une perruche.
Oh.
La perruche. J'imagine que c'est une insulte. Écoute, moi, je le prends comme un compliment. Ouais.
C'est qu'il y a des perruches.
Touch me. Ok, excuse-moi, je t'en fous.
Bon, pendant que tu cherches, on a un crime de potin.
On a un crime de potin?
Ouais, que je t'ai lu tantôt.
Ah, celui-là? Oui. on a un autre?
Non, on l'a juste pas enregistré.
Non, dis-moi.
Bon, en tout cas, son nom Instagram, c'est Xneb. Ok, l'enfant, la personne a dit... Je vais lire ce qu'elle a écrit.
Okay.
Mon voisin... Oui, Angela. Okay. Mon voisin est décédé dans sa maison. C'est moi qui ai appelé la police parce que je trouvais bizarre de ne pas le voir du tout. Quand la police est arrivée, ils sont rentrés de force dans sa maison et sont ressortis super rapidement en vomissant.
Ça n'a pas de sens.
Il était décédé depuis minimum 2 mois et demi. Arc. Arc, ça devait tellement
ça me fait
puer, là. Puis en même temps, c'est triste, tu sais, que...
Il n'y a personne qui a su pendant 2 mois et demi qu'il était mort.
Ouais.
C'est tellement triste.
C'est vraiment triste. Puis après ça, elle dit, la maison a été à vendre pendant presque 2 ans, et quand les acheteurs sont déménagés, ils n'ont pas crissé ça à terre, non. Ils ont tout démoli l'intérieur, enlevé les murs, les planchers, ils ont fait brûler les matériaux, et je vous jure, les filles, ça sentait la mort jusqu'à chez nous. Ça devait tellement puer, là. Ouais. C'est apparemment que l'odeur de mort, là, c'est comme une odeur que t'oublies pas, là, qui est comme tellement distincte, là. Ouais, là, on a les deux bébés bien réveillés. Ouais. Fait que, on va voir ce que ça donne.
D'avance. Mais ouais, ah, c'est trop triste. Là. Ben, c'est trop triste comme crime de potin, pareil.
Vraiment. Pauvre monsieur. Fait que voilà. Puis, ah oui, je voulais faire un shout-out. Il y a comme plusieurs. Ça fait un bout, là. Il y a une auditrice qui nous a envoyé. Elle est, ben, auteure.
Oui.
Puis elle nous a envoyé chacune un exemplaire de son livre. Puis c'est. L'autrice, c'est Sophie de Brune, puis ça s'appelle Sa disparition. Puis je viens de le finir, c'est pour ça que j'en avais comme pas parlé avant.
Je m'excuse, Sophie, j'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais pendant les vacances à Hélène, je vais me mettre là-dessus. Parce qu'il est pas très long.
Non, c'est ça, c'est tout petit. Moi, je l'ai lu pendant que j'allaitais.
Moi, j'allaite pas, fuck.
Mais c'est ça. Fait que shout out, je sais pas s'il est disponible au Québec, là. Ça s'appelle Sa disparition. Tout petit livre. C'est dans le fond, on se demande. Si la fille elle a tué sa belle-mère ou pas. Fait que je vous laisse lire
le
livre.
Dira pas le punch,
non, je vous dirai pas
le
punch.
Moi, je l'ai pas lu non plus.
Ouais. OK, c'est ça. Shout out. Merci full,
Sophie,
de nous l'avoir envoyé. C'est vraiment gentil.
Je m'y mets puis je vous en reparle. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine, Hélène?
Ouais, c'est ça. Je t'avais dit
oui,
c'était
que
différent
ça allait
aussi.
Être épique.
Fait que
moi,
dans le fond.
C'est le mot que je me rappelle.
C'est pas tant du true crime, mais c'est du true. Épique.
OK.
C'est comme ça que je le décrirais.
Mais je suis partante. Allons-y.
Aujourd'hui, je te raconte l'exploit incroyable de Robert Piché.
OK.
OK. Fait que
qu'est-ce que tu vas nous amener?
Mes sources, c'est Wikipédia, le film québécois « Entre ciel et terre okay. », qui est disponible au complet sur YouTube, si vous voulez l'écouter. Mmh. Et le reportage « 19 minutes, l'exploit piché », en okay. plus de plusieurs articles, la presse et Radio-Can. Alors, ça commence. Le 24 août 2001, le vol d'Air Transat 236 à bord d'un Airbus A330 quitte Toronto à minuit 52 du matin.
Ah, je sais c'est quoi!
Ouais?
Ah, je viens d'allumer.
C'est hot.
C'est avec l'acteur québécois qui est dans tout.
Là. Avec Michel Côté, ouais, qui joue Robert Piché dans le film.
Ouais, je sais exactement c'est quoi. Okay. Okay. Ben, je connais pas les détails de l'histoire, fait que je suis vraiment excitée. Vas-y.
Fait que c'est ça. Quitte Toronto à minuit 52 en direction de Lisbonne. À bord se trouvent 293 passagers et 13 membres d'équipage. Donc, pour un total de 306 personnes à bord. Aux commandes de l'avion se trouve le copilote Dirk de Jaeger, 28 ans, qui a près de 5000 heures de vol derrière la cravate. Et le commandant de bord, Robert Piché, qui a 48 ans, et lui, il a 20 ans d'expérience comme pilote d'avion et presque 17 000 heures de vol derrière la cravate.
Wow.
Donc c'est quand même deux... C'est pas leur premier vol.
Des pilotes d'expérience.
Ouais. Alors, lorsque l'avion décolle de Toronto, il contient 46,9 tonnes de carburant. Puis, mettons, c'est 4,5 tonnes de plus que ce qui est requis. Fait que, bref, ils sont bien corrects. À 2h50 du matin, avant de quitter la zone aérienne au-dessus des maritimes, là, fait que dans le fond, il explique que c'est comme divisé en trois. Là, c'est comme les zones aériennes, c'est comme jusqu'aux maritimes. Après ça, t'as l'Atlantique, puis après ça, t'as l'Europe, mettons.
OK.
Fait qu'avant de quitter les maritimes, il faut que tu demandes l'autorisation pour passer au-dessus de l'Atlantique.
OK.
Puis quand ils demandent l'autorisation... au-dessus des maritimes, ben il leur dit « Ouais, c'est bon, mais est-ce que vous pourriez dévier la route légèrement au sud? » Ce qui les fait passer plus proche de l'archipel des Açores, au milieu de l'Atlantique, dans le fond. Okay. Puis le pilote, il a toujours le droit de refuser ça. Mais là, quand il a regardé, dans le fond, ça lui donnait une minute de plus, ce trajet-là, fait qu'il a fait « Ben ouais, pas de problème. » Et ça, cette décision-là, ben, c'était une bonne décision, au final.
Ah oui?
Ouais, parce que
ça allait faire... Je pensais qu'elle allait dire ça a
non,
été
c'est fait. Une bonne okay. décision parce que ça allait faire passer plus proche des Açores. Cette histoire-là, c'est comme tellement de petits détails qui font qu'on peut raconter l'histoire aujourd'hui.
Aïe, aïe, OK.
Avec des témoignages,
mettons. Ouais.
À 4h38 du matin, fait 4 heures après le décollage, là, ça, personne ne le sait, mais il y a une fracture qui se fait dans le moteur droit. Puis... Ça fait qu'il commence à avoir du carburant qui s'échappe du moteur droit.
Le pilote et le copilote, à ce moment-là, ils ne savent pas. OK.
Fait que là, tout ça se fait silencieusement, sans que personne s'en rende compte. C'est seulement à 5h03 du matin, donc 25 minutes plus tard, que là, les pilotes, ils voient dans leur moniteur que ça dit qu'il y a une température basse du carburant puis en même temps, une pression élevée dans le moteur numéro 2, qui est le moteur à droite. Ça, c'est des indicateurs qui peut avoir une fuite de carburant. Mais sur le coup, les pilotes sont comme... Ben, il y a comme pas de raison qu'il y ait de fuite. Fait que, tu sais, ils pensent pas à ça tout de suite. Puis ils se disent, ah, c'est peut-être juste des erreurs de lecture des moniteurs. Mais ils informent quand même le centre de maintenance d'Air Transat à Montréal. Puis qui dit, OK, ben, faites juste surveiller la situation.
OK. Comme rien d'alarmant jusqu'à là.
Non, c'est ça. C'est comment on a ces indicateurs-là. OK. À 5h36, les moniteurs indiquent un déséquilibre dans la répartition du carburant. Fait que ça dit qu'il n'y a pas assez de carburant à droite, puis il y en a trop à gauche. Fait que là, ils suivent la procédure, qui est la procédure officielle, qui est de redistribuer du carburant pour que ce soit égal dans les deux moteurs. Mais ça, c'était quand même une erreur.
Ben oui.
Parce que là, ils font juste envoyer du carburant dans le moteur qui fuit. Fait qu'à ce moment-là, il y avait 1 gallon de carburant par seconde qui s'échappait.
Par seconde?
Ouais. Wow. Qui s'échappait du moteur. Puis le transfert a juste empiré ça, puis ça a fait encore baisser la température du carburant puis augmenter la pression. Fait que c'est le problème qu'ils avaient remarqué sur les moniteurs.
Ouais. J'imagine qu'ils auraient dû changer cette procédure-là aujourd'hui.
Ouais, je sais, j'avoue. Je sais pas, mais. Sûrement, qu'ils ont, ça serait logique. Sûrement que ça a dû évoluer. Ça fait que c'est quand même en 2001, là.
Ouais.
Et que ça fait longtemps. Mais là, en voyant que le moteur, il continue à manquer de carburant malgré cette manœuvre-là, ben là, Robert Piché, il décide d'arrêter le transfert. Ce qui était quand même une bonne idée.
Un bon mot.
Parce que là, il commence à se douter qu'il y a probablement une fuite. À 5h40 du matin, Anita Da Silva, qui est une agente de bord, elle rentre dans le cockpit, puis elle témoigne là, dans le reportage que j'ai écouté, là, elle rentre dans le cockpit, puis elle sent là, une tension comme elle n'en a jamais senti de sa vie. Là. Elle sent, tu sais, c'est pas cool dans le cockpit. Pas, là. Là, parce que, ouais. Tu sais, elle se doute de rien. Là, dans le passager de l'avion, à ce moment-là, ils n'ont aucune idée.
Non.
Fait que là, le commandant, il dit, on a un problème de carburant, on va dérouter aux Açores.
OK.
Puis là, il dit « Prépare la cabine pour un amérissage. »
Et
ça, là, oh, imagine à quel point tu dois
cœur.
Freaker.
Oh, mon Dieu.
OK, on se prépare pour un amérissage. What the fuck? Fait que là, à 5h45 du matin, les pilotes, ils décident, c'est ça, de détourner l'avion pour se rendre à la base militaire de l'AGES, qui se trouve sur l'île Terceira de l'archipel des Açores. Fait que ça, c'est des îles là, qui appartiennent mm-hmm. au Portugal, mais sont ouais. comme un peu au milieu de l'Atlantique. Quand ils décident de faire ça, ils sont à 600 000 de Lisbonne, fait que presque 1000 km, et 300 000 des Açores, fait que 482 km. Fait que c'est deux fois moins loin, les Açores.
Okay.
Fait que, tu sais, parce qu'ils auraient pu décider d'essayer de continuer jusqu'à Lisbonne. Fait que c'était une bonne décision d'aller vers les Açores à ce moment-là, je te le confirme. 3 minutes plus tard, il déclare une urgence au centre de contrôle de Santa Maria aux Açores. À 6h13, alors qu'ils sont encore à 280 km de l'AGES et à 39 000 pieds dans les airs, donc 12 000 mètres d'altitude, ah. Le moteur numéro 2 lâche.
Numéro 2?
Celui qui fuyait, ouais. Il lâche complètement. Jusque-là, Robert Piché, il refusait de croire qu'il y avait vraiment une fuite de carburant, puis il espérait de tout cœur que c'était que des erreurs des instruments de bord. Mais là, c'était comme, OK, non. C'est vraiment ça qui se passe. Fait que là, il suit les procédures, il descend à 33 000 pieds, fait que 10 000 mètres. 10 minutes plus tard, l'équipage envoie un Mayday à la tour de contrôle de Santa Maria. Mayday, Mayday, on a le moteur numéro 2 qui a lâché. Ça, il était 6h13. Là, à 6h26, c'est 13 minutes plus tard, là, c'est le moteur numéro 1 qui lâche.
Hein?
Plus de moteur. Zéro. Il y en a juste deux. les deux ont lâché. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les moteurs, c'est la première source d'électricité dans un avion. Fait que, qu'est-ce qui arrive quelques
les
minutes
lumières.
Plus tard? Pff, plus d'électricité. T'imagines?
Là, les passagers
Et
sont
là,
au
les
courant.
Passagers, ils s'en rendent compte, là. Fait que là, c'est ça, les passagers, là, t'entends plus le bruit des moteurs. Bruit très rassurant quand t'es dans un avion.
Oui.
Et là, pff,
plus d'électricité. Et mon cœur est en train de battre vraiment.
Capote. Tu te dis, genre, ben ça y est, c'est là que je vais mourir. Genre,
clairement.
Littéralement. Là.
Oui.
Fait que là, quand ça arrive, ils sont au milieu de l'océan Atlantique, en vol plané.
Oh my God.
Sans moteur, sans électricité, encore à 120 km de l'AGES.
120 km?
Ouais. Fait que sur le coup, Robert Piché, il penche la tête, puis il se dit, c'est aujourd'hui que je meurs.
Clairement.
Puis après quelques instants, il peut pas dire combien de temps, si c'était des minutes ou genre des secondes. Puis là, il a pensé à ses enfants qui grandiraient sans père, puis il s'est dit non, attends là, c'est moi le commandant de bord. Si il y a quelque chose que je peux faire, je vais le faire. Puis c'est pas de même, ça va finir. Puis il se dit, je vais y aller jusqu'au bout. Si je peux sauver une vie, ça va valoir la peine. Je vais me battre.
Wow.
Il dit que quand il a relevé la tête, en ce cas, il dit qu'il a comme il a vu son père qui était décédé. Il dit, j'ai senti mon père qui me touchait l'épaule, puis quand j'ai relevé la tête, j'ai vu les Açores au loin.
Ah!
C'est cute.
Ah, j'ai des frissons.
Wow.
J'ai
genre pleuré. Cette histoire-là, elle me donne... Genre, à chaque fois que je l'entends, je pleure. Genre, c'est comme trop intense.
Wow.
Fait que là, dans le fond, quand les moteurs arrêtent puis l'électricité, il reste quand même... Il reste quand même une turbine d'urgence qui est prévue pour ces situations-là.
OK, puis, c'est ça que j'allais demander. Après, deux moteurs, il n'y a plus rien.
Ben, fait que ça, la turbine, elle permet comme juste de faire les choses essentielles, là, genre tourner le volant, puis t'sais, comme les trucs mécaniques là, t'sais, okay. qui permet quand même d'alimenter des trucs vraiment de base. Fait que là, okay. à ce moment-là, sont à 28 000 pieds d'altitude. Okay. Puis selon les procédures, les pilotes devraient descendre à 20 000 pieds. Puis là, c'est ce que...
Quand ils sont en planage?
Ouais. Okay. Si t'arrives que t'as plus de moteur, plus d'électricité, ça dit que tu devrais descendre à 20 000 pieds.
OK.
Puis, c'est ça qui est décrit dans la procédure. Son copilote, lui, il prend le livre de procédure officielle, tu sais, puis il est comme, OK, là, on devrait descendre à 20 000 pieds, tu sais. Mais là, Robert Piché, il fait comme... Il écoute son instinct, là, parce qu'il avait vraiment de l'expérience, puis il en a fait des... Parce que je te raconte un peu après ses ouais. expériences, là, mais tu sais, il a été pilote de brousse, puis tu sais, il en a fait des trucs un peu funky, là. Fait qu'il décide d'écouter son instinct, puis il fait « Non, on va pas suivre les procédures, on va pas descendre à 20 000 pieds, parce qu'en ce moment, j'ai mon altitude, puis ça me permet de planer. »
Ah!
Fait que je vais essayer de planer le plus longtemps que je peux, parce que c'est mon seul moyen de rester dans les airs en ce moment, c'est de garder ma vitesse, puis de planer. Ma vitesse, puis mon altitude.
OK.
Fait qu'il dit comme ça, je vais pouvoir rester plus longtemps dans les airs, puis après ça, descendre comme en palier, t'sais. Quand il a besoin de descendre.
Il y avait une présence d'esprit quand même incroyable pour moment de panique de même.
J'imagine vous, hein?
que c'est comme ça qu'ils choisissent les pilotes, mais
wow. Ouais, ben c'est ça, quand t'es pilote, il faut tellement que tu restes calme. Là.
Mais oui.
Ah, puis dans le film, là, genre, le copilote, il panique quand même vraiment, puis genre, Michel Côté qui joue Robert Piché, genre, full calme.
Yeah.
Il est trop hâte. Fait que là, à 6h31 du matin, les masques d'oxygène sont déployés aux passagers. Si les passagers étaient capotés. Capotes. Genre, la chose que tu veux pas qu'arrive. Fait que là, ils sont en communication avec la base militaire. C'est un aéroport militaire, là, c'est une base militaire mm-hmm. sur l'île de Terceira, qui les guide grâce au radar. Là, on s'entend, c'est vraiment la base là, ce qu'ils ont à ce moment-là.
Il n'y a plus d'électricité.
Non, c'est ça. Fait que là, heureusement, le soleil s'est élevé, puis le ciel était vraiment clair cette journée-là.
Okay.
Fait qu'ils voyaient les Açores, mais là. Fait que là. Robert Piché, il voit les Açores, mais il sait même pas c'est sur quelle île qu'il est supposé... Tu sais, il y a 5 îles, ouais, c'est un archipel. Il faut qu'il atterrisse sur celle de Terceira, tu sais. Puis là, il n'y a plus d'instrument. Ah, là,
c'est
pour...
ça, il n'y a plus de... Ouais.
Non, fait que c'est vraiment à vue, là. C'est ça.
Ta.
Fait que là, pour savoir c'était laquelle, ben là, la tour de contrôle avec qui il est en communication à la GES, ils font comme, OK, on va genre flasher les lumières du plus... T'sais, de la plus haute intensité ouais. qu'on peut pour que tu vois c'est sur quelle île. Fait qu'ils ont fait ça, puis là, lui,
ça
il a
fonctionné?
Vu, ouais, il a vu que ça a flashé, puis il a fait « OK, c'est bon, c'est ce style-là, je me dirige vers là. »
Mais comment il faisait pour être en communication à cause de la génératrice?
Je pense que comme le système radio avait pas besoin d'électricité pour fonctionner.
C'est des ondes.
Ouais, c'est des ondes, fait que ça marchait. Okay. Fait qu'il pouvait communiquer avec la tour de contrôle.
OK.
Puis c'est ça, la tour de contrôle les guidait vraiment à l'œil, là, tu sais.
Aïe, aïe. J'ai goût d'aller réécouter le film, ça fait trop longtemps que je l'ai vu.
Ouais, en plus, c'est ça, il est gratuit sur YouTube.
Ah.
Au complet. J'ai écouté ça l'autre jour, c'est bien bon. Mais là, fait que là, il se dirige vers l'aéroport de la GES, mais là, la vitesse de l'avion est trop grande, fait qu'il peut pas atterrir à cette vitesse-là. Parce que là, il est quand même bien enligné, tu sais. Fait que là, il peut pas ralentir comme il pourrait le faire d'habitude, parce que ça marche plus. Et puis l'électricité. Fait que là, il décide de faire un 360 pour perdre la vitesse. C'est quand même une manœuvre que les avions font souvent. Tu sais, je sais pas si c'est arrivé, là, tu sais, t'approches de l'aéroport puis ils font comme un tour, tu sais. Mais là, mettons que ceux-là, il était bien... T'as un 360 bien serré, là. Les passagers étaient comme... Ça penchait en esti. Puis là, il approche, mais là, après son 360, il est encore un peu rapide, fait qu'il fait des S.
Mon Dieu.
Pour s'enligner, tu sais, pour ralentir.
C'est un gros avion, là.
C'est un gros avion, là. C'est un gros avion commercial.
C'est
t'sais.
Impressionnant.
Là, c'est le moment décisif. Il est 6h40 du matin. Il dit à son copilote, OK, on déploie le train d'atterrissage. Fait que là, les roues en dessous, là. Mm-hmm. Puis ça, c'est comme un moment de non-retour parce que une fois que tu sors ça, tu perds ta vitesse. Tu sais, ça fait comme ralentir à cause de la... Puis là, pendant ce temps, à la base militaire, ben là, les services d'urgence sont sur place, là, tu sais, genre, tous les pompiers, les ambulances, mais tu sais, ils savent pas où est-ce qu'ils vont atterrir, là. Ils vont-tu atterrir dans l'eau? Ils vont atterrir sur la piste? Ça va-tu exploser? Tu sais, genre, sont comme, on est là, mais on sait pas où, tu sais. C'est ça. Puis ils pourraient atterrir pas sur la piste, là, ils pourraient atterrir sur des maisons, tu sais, c'est comme, OK, où c'est que ça va atterrir, tu sais. Mais ils sont prêts, ils sont là. À 6h45... C'est comme trop épais.
On edge.
Cette histoire-là. Mais... À 6h45, l'avion touche la piste d'atterrissage à une vitesse de 370 km/h. C'est trop rapide, fait que l'avion, il rebondit.
Les pauvres passagers.
Tu dois capoter. Fait que là, ça rebondit. Puis là, ça, Robert Pichet, il savait, fallait rien qu'il fasse rien. Parce qu'il y avait de l'expérience d'atterrir, genre, en plein hiver sur des pistes, genre, avec des plus petits avions, là. Mais il sait que tu fais rien, puis tu laisses l'avion, comme, retomber de lui-même. Okay. Fait qu'il fait ça. Puis là, quand l'avion, il touche à la piste, là, il a mis les freins d'urgence, là. Puis les pneus, là, ça allait tellement vite, là, ça a le brûlé. Les pneus ont fondu dans l'asphalte,
ben,
là, genre,
quasiment ça. Quasiment 400 km/h.
Ouais. Puis... Finalement, l'avion s'immobilise enfin.
Oh my God.
Et là...
Tout le monde sain et sauf.
Ouais. Les sorties de secours s'ouvrent, les passagers sortent. Fait qu'il y a 14 passagers et 2 membres de l'équipage qui ont eu des blessures légères, 2 passagers qui ont eu des blessures plus graves, mais en tout, les 306 personnes survivent.
Ils sont en vie.
Ouais. C'est capoté. Oh, c'est, wow. Ça me fait capoter. Puis le commandant, c'est le dernier à quitter l'appareil. Puis il s'assure que personne reste à bord. C'est sa job. Ouais. Puis là, quand les gens le voient t'sais, sortir, ils glissent t'sais, pour sortir de l'avion. Puis là, tout le monde l'applaudit. Genre, les gens capotent. Il dit, il y a 2 petites filles qui sont allées voir Robert Pichet pour qu'il signe leur ceinture de sauvetage. Puis il dit, ça a été mes premiers autographes.
Ça met comme un petit baume sur ce qui vient de se passer.
Oui,
quasiment.
Mais
wow.
Ce qui est vraiment drôle, c'est que... Mais c'est ça, lui, ce qu'il se dit, là, en atterrissant, il est même pas genre... Ah, oh, yeah, j'ai... Ben, oh, quand même, OK, j'ai sauvé la vie de tout le monde, mais il se dit, ah, merde, je suis dans la merde, j'ai pas suivi les procédures. Je vais
c'est
me faire engueuler. C'est ça qu'il se dit sur le coup.
Ben ouais.
Il dit, je vais perdre ma job, j'ai pas suivi les procédures.
300 personnes, le gars.
Parce qu'il a pas suivi les procédures, tu sais.
Exactement.
Sinon, tu sais, s'il était descendu... Comme les procédures, il n'y aurait pas eu assez d'énergie pour planer jusqu'à l'île.
Dans l'eau.
C'est ça.
J'imagine que c'était pas trop fait gronder.
Non, je te dis après.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, ça reste jusqu'à aujourd'hui, le vol plané avec un avion de type commercial, ça reste un record mondial.
Le plus long?
Le plus long. Il a fait 19 minutes de vol plané. C'est capoté.
19 minutes de ton cœur, il bat pas, là. Il arrête ton
cœur. C'est juste l'adrénaline qui te garde, là.
Puis le gars, il est calme.
Ouais.
Aïe, aïe.
Fait que là, après ça, ben là, tu sais, il y a une enquête pour découvrir c'était quoi les causes, là. Comme, qu'est-ce qui a causé ça? Mais en gros, c'était. La cause principale, c'était une erreur de maintenance sur l'appareil, dans le fond, par Air Transat.
OK.
C'était une pièce qui a été. Qui est incorrecte, dans le fond, qui aurait pas dû prendre cette pièce-là, qui a été installée sur le système hydraulique pendant une maintenance de routine. Fait que dans le fond, c'est une pièce qui fitait pas, puis même le mécanicien principal, il avait levé le flag, là, il avait dit comme « moi, je mettrais pas cette pièce-là ».
Puis il y a rien qui a été fait?
Ils l'ont mis pareil. Parce que c'est tellement précis, les avions, là, c'était genre une affaire de millimètres, là, genre que c'était pas... C'était genre à 2 millimètres, pas pareil à l'autre. Puis à cause de ça, ça a fait une fissure, tu sais. Puis ben Air Transat a assumé la responsabilité de l'accident, puis ils ont payé une amende de 250 000 $.
Ce qui est pas de temps pour Air Transat, on s'entend. C'est tout?
C'est tout ce qu'ils ont payé. Ouais, c'était la seule conséquence pour Air Transat. Puis aussi dans l'enquête, ça, ils ont aussi comme regardé comme la responsabilité des pilotes. Fait qu'ils ont écouté les enregistrements de bord dans le cockpit là, pour voir comme s'il y avait une part de responsabilité. Puis on dit qu'ils avaient partiellement mis la faute sur les pilotes parce que ils n'ont pas utilisé la checklist principale quand ils ont voulu rajuster le déséquilibre entre les réservoirs d'essence des deux moteurs. Fait que, tu sais, dans le fond, s'ils avaient suivi, genre, cette checklist-là, ben, dans le fond, ils n'auraient probablement pas transféré l'essence vers le moteur qui est en train de couler. Puis ça a fait que ça a empiré la crise. Fait qu'il y avait comme un peu... Ouais,
t'es en mode panique, faut que tu restes calme, faut que tu saches quoi faire, faut que tu... Tabarnouche.
C'est ça. Mais, tu sais, heureusement, bon, ils ont mis partiellement la faute sur les pilotes, mais, tu sais, les pilotes, ils n'ont pas eu de sanctions, là, au contraire, là. Ils étaient comme acclamés, là. Fait que, je te parle juste un peu de qui est Robert Piché. Fait qu'il est né le 5 novembre 1952 à Québec. Il a grandi en Gaspésie.
Ouais. OK.
Et il a obtenu sa licence de pilote en 73 au cégep de Chicoutimi. Hey.
C'est chez nous.
Oui! Et il a travaillé pour la compagnie Québec Air, qui n'existe plus aujourd'hui.
Je ne connais pas.
Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, il a perdu sa job parce que Québec Air a mis du monde à pied. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, donc ils ont dû avoir des problèmes financiers. Fait que là, il s'est retrouvé sans travail, mais là... Il a comme trouvé une autre job de pilote, mais moins legit. Fait qu'en fait, il a transporté de la marijuana aux États-Unis par avion.
Hein?
Sur des petits avions de brousse, là, genre, il atterrissait comme en Jamaïque, là, dans des aéroports sketch. Vraiment au milieu de la forêt, genre.
OK.
Fait que toute cette expérience-là a fait que probablement que grâce à ça, il a pu sauver la vie de toutes ces personnes-là parce qu'il a fait des affaires pas de bon sens, t'sais, super dangereuses, comme... avec des petits avions de brousse. Puis, il s'est fait prendre en 1983, lorsqu'il a atterri en Géorgie, aux États-Unis, avec de la drogue dans l'avion. Oh. Fait que il a été condamné à 5 ans de prison aux États-Unis. Puis...
Il a fait de la prison
aux États-Unis.
Wow.
Okay. Puis, heureusement pour lui, sur 5 ans, il a servi juste 16 mois avant d'être libéré. Fait qu'un an et quelques.
C'est après ça qu'il est allé chez Air Transat?
Ben, ouais, il a commencé comme pilote pour Air Transat en 96. Fait qu'il a fait de la prison...
Fait que tu peux faire de la prison puis être pilote d'avion.
Ouais, mais même quand en 2000, il a été officiellement pardonné puis ça a été enlevé, genre, de son dossier.
OK.
Complètement. Mais il a commencé à travailler pour Air Transat, il avait encore sa tâche au dossier, tu sais, en 96.
OK.
Ouais, c'est fou, hein? Fait que, c'est pas parce que tu fais de la prison qu'après ça, tu peux pas rien faire de hot, là. C'était une erreur de jeunesse, puis c'est repris.
Ben, si ton crime est pas grave, on s'entend.
Ouais, tuer quelqu'un, c'est autre chose, là, mais t'sais.
Nous qui avons un podcast sur le true crime,
fait que là, on revient à quand il a fait cet acte héroïque. Fait que pendant une semaine, là, c'est le héros international, mais national au Québec, là, les Québécois, ils capotent. Wow. Tout le monde trippe sur lui. Les gens l'arrêtent dans la rue pour le féliciter, demander des autographes. Mais là, à peu près une semaine après, là, les journalistes ils sont tombés sur son arrestation puis son emprisonnement en 83. Fait que là, ça sort dans les journaux, genre, le héros a fait de la prison pour trafic de drogue. Puis là, soudainement, genre, tous les médias sont comme contre lui. Puis là, c'est genre, blablabla, genre, il est pas nice,
le
finalement.
Le gars vient de sauver 300 personnes.
Ouais, fait que là, ça sort tout dans les médias. Des fois, c'est vraiment... pas nice. Puis là, ben c'est ça. Dans les mois qui suivent, on s'entend que là, il vient de se remettre de genre d'un gigantesque choc, là. Il a frôlé la mort. Après ça, il y a eu toute l'attention médiatique positive, après ça, négative. Puis il y avait déjà comme la tendance de boire un peu. Jamais quand...
Ça me semble dans le film, il buvait.
Ouais. Jamais quand il devait travailler. Jamais, jamais.
OK.
Mais quand il était off, il avait tendance à avoir le coup de léger.
OK.
Puis là, après ces événements-là, ben là, il est quand même... Il a commencé à boire un peu plus puis à tomber un peu dans l'alcoolisme. Après quelques mois des événements du vol 236, ben il est rentré dans un centre de désintox pour alcooliques et toxicomanes. Mais il s'en est vraiment remis, puis il est sorti de là, puis il a continué à travailler pour Air Transat jusqu'en 2017, où il a piloté son dernier vol commercial entre Rome et Montréal. Il pouvait choisir la destination et son copilote pour son dernier vol, genre. Puis il a fondé la fondation Robert Piché, qui vient en aide aux personnes aux prises avec des dépendances à l'alcool, aux drogues et aux jeux.
Ah, crème.
Fucking nice.
OK.
Ouais, fait que lui, genre, il s'est dit, OK, le sens de ma vie, ben, je vais venir en aide aux gens qui ont des problèmes de dépendance. Genre, tu sais, quand tu vis comme une expérience comme ça, c'est comme, c'est quoi le sens de la vie, genre? Puis lui, il a comme trouvé
comme
là-dedans.
Il a vécu son traumatisme, puis après ouais. ça, il a fait quelque chose de bien avec ça.
Ouais, vraiment. Puis c'est ça, il est juste vraiment nice. Là. Quand tu le vois en entrevue, il est tellement sympathique, puis il se prend tellement pas pour un autre, là. Il est juste, genre, vraiment humble. Puis tu sais, dans une entrevue, à un moment donné, il avait répondu au journaliste, genre, je me considère pas comme un héros. J'aurais pu m'en passer.
Il a dit ça?
Il a dit ça. Ah,
ben, c'est sûr que, tu sais, vivre ça, t'aurais ouais. même mieux pas le vivre.
Ben, c'est ça, tu sais.
Il a frôlé la mort d'assez près.
Ouais.
Puis ça aurait pu être fatal pour 300 personnes.
Pour 306 personnes.
De porter ouais. ça sur ton dos. OK, oui, ça s'est ouais. bien passé, ça s'est bien terminé, mais quand même.
Quand
c'est
même.
Traumatisant. Ouais.
Fait que c'est ça. Voilà. C'était mon histoire épique. L'histoire de Robert Piché, un héros national. Il est encore en vie aujourd'hui. Oui. Bravo, Robert Piché. Pour vrai, il est trop...
Ouais, je veux trop réécouter le film. Je trouve ça cool que ce soit sur YouTube.
Ouais. Ouais, c'est ça. Le film, il est bon. Puis Michel Côté, il fit quand même
dans, ben oui, je dans vois le sa personnage. Face, ouais, super sérieux, super ouais. calme.
Vraiment.
Eh bien... toute qu'une histoire.
Avoue, hein? J'aime ouais. tellement cette histoire-là. Je te dis, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je la dis, ben, je l'entends. Frissons, okay.
Je suis au bout de ma chaise.
C'est fou.
Mon Dieu.
Ouais.
Eh, OK.
Mais voilà, on a deux épisodes de suite qui font ouais. changement.
Inquiétez-vous
mais...
pas, on va revenir avec les tueurs en série que vous
ouais.
aimez tant.
Ouais, on va revenir ces trucs plus trash.
On avait
trash.
Juste besoin d'un petit break. Là.
C'est
l'été. Là,
c'est ça, de quoi de plus léger. Ouais, c'est parce que je me suis dit, tu sais, dans... Moi, j'aime bien My Favorite Murder, là, le podcast. Ouais. Là. Puis tu sais, ils en font des fois des histoires de d'avion, genre de crash d'avion, de survivaliste.
C'est surtout une...
Puis je trouve ça le fun. C'est le fun, ces histoires-là aussi.
C'est
t'sais.
Surtout une histoire qui finit bien.
Ouais.
Tous nos
fun.
Épisodes finissent mal.
C'est vrai.
Tous les épisodes. Ouais, là, il y a quelqu'un qui décède.
Il y a personne qui est mort.
Personne.
Ouais.
Et ma fille est un peu tannante.
Ouais, on va mettre fin à ça. Il fait vraiment chaud. On enregistre ça dans la canicule.
Ouais.
Fait que, ben, encore une fois, bonnes vacances, bonne fin
oui.
d'été. Puis.
On se revoit dans deux semaines.
On vous aime.
Oubliez pas de nous écrire. Elle, tu veux-tu dire quelque chose aux auditeurs?
Elle pogne le micro.
Bon, mais on vous aime, puis on se voit dans deux semaines.
Oui.
Je vous raconte une histoire.
À bientôt.
Bye.
Bye.
Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt. A classic zip-up hoodie that used to be navy blue, but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old. Soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA, so they can control every link in their own supply chain. That matters. Because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.